Chapitre 3. Progrès de la dissipation. Ayant apaisé M. Clyte par la promesse du paiement et d'une récompense, Camilla conservait l'espoir de saisir un moment favorable pour faire sa pénible confession. Ses craintes furent encore un peu calmées par une lettre de Lisbonne qui annonçait qu'à la pressante sollicitation de M. Elville, Mistress Tyrold avait consenti à différer son retour. Elle se flattait d'être, avant l'arrivée de sa mère, en état de remplir les devoirs qui pouvaient seuls la distraire de sa douleur. Elle passait néanmoins presque tout son temps renfermée et livrée au repentir de ses indiscrétions, à la douleur que lui causait le sort d'Eugénia et au regret d'avoir perdu pour toujours le bonheur dont elle avait été si près de jouir. Miss Margland fit à Indiana une observation qui n'augmenta pas à ses yeux le mérite de Melmont. Elle lui conseilla de s'informer le plus tôt possible si M. Bellamy était tenu de souscrire à l'engagement qu'Eugénia avait contracté avant son mariage. « Je ne crois pas cependant, ajouta-t-elle, que votre cousine puisse désirer de vous faire perdre une si belle occasion de voir la ville de Londres. » Et comme Miss Margland dispensait en grande partie de cette corvée Mistress Bennington, qui commençait à être très ennuyée d'Indiana, elle eut la satisfaction de s'entendre invitée à ne quitter Londres qu'avec les deux cousines qu'elle y avait amenées. La conduite de Bellamy avait piqué et profondément affligé Mistress Wellington. Séduite par sa belle figure et par le premier éloge qu'elle entendit faire de la sienne, elle s'était laissée facilement captiver par des descriptions pathétiques de la sympathie qui les unissait et attendrir par des lamentations sur la cruelle destinée qui les éloignait l'un de l'autre. La demande qu'il lui avait faite de son amitié était la première douceur qui eût, depuis son mariage, répandu quelque intérêt sur sa vie. Et ce sentiment, s'emparant peu à peu de toutes ses pensées, lui avait fait regarder le reste de l'univers avec indifférence. Mais durant leur longue séparation, ses regrets ne pouvant occuper tout le vide de ses journées, elle eut recours au jeu. Le retour de Bellamy l'aurait fait renoncer à cette passion factice. Mais sa fuite avec Eugénia l'y replongea plus profondément que jamais. Cet événement avait détruit ses illusions et répandu la confusion dans ses idées, et l'oisiveté lui parut encore plus insupportable qu'auparavant. Quand on s'est une fois livré à la dissipation, on ne reprend jamais le goût d'une vie simple qu'après avoir appris de l'expérience que tout est insipide lorsque le cœur n'y prend point de part et que tout est danger dès qu'on n'a plus de principe pour guide. La table de Pharaon fut ouverte et Mistress Burlington reçut chez elle, tous les soirs, une nombreuse société composée des élégants oisifs des deux sexes dont les capitales abondent. Parmi eux, tout ce qui est nouveau et brillant obtient infailliblement la vogue, au moins durant une saison, et tant qu'elle dure, ils la suivent généralement, sans examen et sans réflexion. En se livrant à ce genre de vie, Mistress Burlington n'eut d'abord en vue que se distraire de ses chagrins, de son ennui. Elle le continua ensuite par vanité. Elle voulut attirer, par des motifs plus personnels, ceux que le jeu et le torrent de la mode du jour rassemblaient chez elle. Elle tâchait de se rendre attrayante pour tout le monde, elle souriait agréablement à tous ceux dont elle rencontrait les regards, et ceux qui l'avaient jusqu'alors admiré en silence furent encouragés à déclarer hautement l'irrésistible effet de ses charmes. Après avoir rassasié sa vanité de conquête, elle continua d'en chercher par habitude. La coquetterie n'abuse pas moins celle qui la met en pratique que celle qu'elle séduit. Elle fut bientôt plus flattée d'une conquête qu'elle faisait à force d'art que de l'hommage volontaire qu'elle n'avait point provoqué. Comme elle avait l'ambition d'enchaîner tous ceux qui l'approchaient, elle ne fixait sur aucun d'eux particulièrement son attention. Bellamy l'avait humiliée, elle voulut en humilier d'autres, et l'insensibilité de son cœur augmentait en proportion des grâces et de l'expression qu'elle ajoutait à ses regards et à ses sourires. Indiana, transportée subitement d'une retraite isolée dans le tourbillon des plaisirs, se crut dans une région céleste où la beauté jouissait du plaisir délicieux d'être perpétuellement adorée. Le sensible Melmont, malgré son aveugle partialité, qui se plaisait à supposer qu'une si belle enveloppe devait contenir un cœur non moins parfait, fut douloureusement surpris en la voyant livrée sans réserve à la dissipation dans un moment désastreux pour Eugénia. Eugénia, l'objet non de son amour mais de sa vénération, et qu'il regardait comme une divinité bienfaisante à qui il était redevable de l'union qui allait combler ses désirs. Il ne concevait pas comment on pouvait chercher le plaisir tandis qu'Eugénia était malheureuse. Dans ces entrefaites, Camilla apprit, par une lettre de Lavinia, que Sœur Hugues avait été profondément affectée de l'histoire de l'enlèvement, quoiqu'on la lui eût beaucoup adoucie à la sollicitation d'Eugénia, qui ne voulait point convenir que son mari avait employé la violence. Belle amie continuait toujours ses démonstrations de tendresse. Eugénia les recevait avec douceur et semblait y croire. Mais son mari avait refusé de résider à Clèves et forcé Eugénia de demander à son oncle un établissement séparé, quoiqu'il fût évident que cette demande était totalement opposée à son inclination. Malgré ses embarras de finances, le baronnet y avait consenti et leur avait assuré un revenu de 1000 livres sterling. En conséquence, Bellamy venait de louer une maison en Belfond et s'occupait de ses arrangements. Eugénia semblait avoir recouvré sa tranquillité et se résigner à son sort. Elle n'avait d'autre chagrin que ne pouvoir pas remplir encore sa promesse relativement aux bijoux. Bellamy les avait empaquetés, quoiqu'elle lui eût déclaré franchement qu'elle les avait promis à une de ses parentes. Ils ne pouvaient pas, disait-il, les lui rendre avant que leurs effets fussent transportés dans leur nouvelle habitation. Mais elle avait chargé Lavinia d'assurer sa sœur que ce retard ne serait pas long. Lorsque les 3 semaines d'absence furent écoulées, Indiana, enchantée du séjour de Londres, écrivit et obtint une semaine de prolongation. Eugénia était établie à Belfond, et Camilla, dans l'attente des bijoux, passait tristement sa vie dans sa chambre, sans être même invitée à en sortir, excepté pour les repas. Mistress Verlington se livrait de plus en plus à un excès de dissipation qui occupait tout son temps et lui laissait peu de goût pour la société particulière d'une amie. Camilla, surprise et effrayée d'un changement si prompt, fut passagèrement distraite de ses peines personnelles par son amitié pour Mistress Verlington, qu'il était difficile de connaître sans s'intéresser à son sort. Elle lui fit des reproches obligeants du chagrin que lui causait son apparente indifférence. Mistress Verlington l'embrassa tendrement et lui protesta que son amitié pour elle n'était point diminuée. Elle disait vrai, son cœur n'était point changé, mais son nouveau genre de vie ne lui laissait point de loisir. Une partie succédait immédiatement à l'autre, elle n'avait jamais la force de s'en défendre. Et, quoiqu'elle n'y trouvât point le plaisir, cela servait du moins à la distraire des regrets et de la mortification qui blessaient sa vanité et affligeaient son cœur. Camilla, encouragée par sa douceur et par les nouveaux témoignages qu'elle lui donnait de son affection, renouvela ses remontrances et invita Melmont à la seconder. Dans un autre temps, il n'aurait pas eu besoin d'avertissement pour veiller sur une sœur qu'il chérissait. Mais Indiana occupait toute son attention. Depuis quelque temps, elle exigeait de lui une adoration perpétuelle et lorsqu'elle surprenait ses yeux fixés ailleurs, elle l'accusait d'indifférence et lui faisait solliciter durant un jour entier son pardon. Cependant, il reçut les avis de Camilla avec reconnaissance. En observant la conduite de sa sœur, il ne vit pas sans trembler le changement qu'avait déjà produit la flatterie et l'exemple. Elle avait toujours écouté docilement ses conseils, il l'avait vue effrayée des dangers qu'il lui présentait, et le reproche de la moindre irrégularité la rendait honteuse et confuse. Mais cette sensibilité avait disparu. Mistress Verlington reçut les remontrances de son frère sans la moindre émotion, et bientôt elle entreprit d'y résister et d'y répondre. Melmont, désespéré de son peu de succès, considérait avec inquiétude les dangers d'un pareil genre de vie, non seulement pour sa sœur, mais pour Indiana, qui ne connaissait plus d'autre plaisir que de se parer et d'être admirée. L'hommage de Melmont avait perdu pour elle l'attrait de la nouveauté. Lorsqu'il ne lui parlait point d'amour, ses discours étaient au-dessus de sa portée. Elle se vengeait de ce qu'elle appelait sa froideur en faisant le plus grand éloge de Mac D'Arcy, qui fréquentait depuis peu les assemblées de Mistress Verlington. Elle aurait dû observer que leur situation respective était changée, que l'homme assuré de sa main pouvait bien être reconnaissant, mais ne pouvait plus avoir d'inquiétude, que Melmont, avant d'être admis, avait l'air aussi passionné que Mac D'Arcy, et s'exprimait avec autant de véhémence et n'attribuait point ce changement au passage de la crainte à la sécurité, mais à la métamorphose de l'amour en indifférence. Tandis qu'aveuglé par sa passion, Melmont avait regardé Indiana comme absolument parfaite, il aurait voulu passer à ses pieds sa vie tout entière. Cet hommage faisait sa gloire et son bonheur. Mais lorsqu'il reconnut chez sa divinité toutes les imperfections des mortels, il cessa ses adorations et se demanda avec étonnement comment il avait pu en être si prodigue. Il pensait avec regret à Eugénia. La pureté de son amour, la culture de son esprit et la générosité de ses sentiments formaient un contraste si frappant qu'il ne pouvait se pardonner d'avoir sacrifié au plaisir des yeux ceux de l'esprit et de la raison. Au jour fixé pour retourner à Clèves, Indiana sollicita encore un délai de quelques jours qu'elle employa comme les autres à sa toilette et à savourer le plaisir d'être admirée, tandis que Camilla, isolée, languissait dans l'inquiétude et la douleur. Mrs. Mitin lui manda que M. Clyke était plus inquiet que jamais de son argent parce qu'elle avait cru devoir en conscience l'informer des bruits qui couraient sur le compte de M. Tyrold que des pertes avaient, disait-on, forcé de faire de très grands retranchements dans sa maison. Elle reçut en même temps une lettre de Lavinia où elle trouva des détails si affreux sur la situation d'Eugénia qu'elle oublia presque totalement ses chagrins personnels. On avait appris de Molly Mill, qui, à la sollicitation de Sir Hugh, avait suivi sa maîtresse à Bellefond, que Bellamy avait déjà jeté le masque de sa prétendue passion et exigé impérieusement qu'elle demandât de l'argent à son oncle, parce qu'il avait, dit-il ouvertement, des dettes considérables et urgentes. Eugénia lui répondit avec douceur, mais elle refusa d'importuner son oncle. Depuis ce moment, Bellamy, furieux, l'accablait des reproches les plus outrageants et avec tant de violence qu'il se faisait entendre de tous les domestiques de la maison. L'infortunée Eugénia mandait cependant à sa sœur qu'elle n'avait pas encore perdu l'espoir de tenir parole à Camilla parce que M. Bellamy ne réclamait point contre une promesse faite avant son mariage, mais il avait, disait-il, égaré la clé du coffre où les bijoux étaient renfermés. Camilla, dévorée de mille inquiétudes, en eut bientôt un nouveau sujet, plus capable encore que tout le reste de lui inspirer de l'horreur. Un soir qu'elle conversait tête à tête avec Mrs. Burlington, dans son cabinet de toilette, un domestique annonce M. Bellamy. Mrs. Burlington rougit et parut animée, au moins autant par la colère que par la surprise. Camilla s'enfuit précipitamment pour éviter la vue d'un homme qu'elle abhorrait, très étonnée d'ailleurs que son amie pût consentir à le recevoir. Espérant toutefois qu'elle apprendrait quelque chose de relatif à sa sœur, elle courut au cabinet de toilette dès qu'elle sut que Bellamy en était sorti. Mais à l'instant où elle allait y entrer, le son de sa voix frappa son oreille. Et tandis qu'il remontait l'escalier, elle entra dans la pièce voisine pour éviter sa rencontre. Elle en avait à peine fermé la porte qu'elle l'entendit s'écrier « Quoi, vous pleurez encore, ma charmante amie? Ah, comment avez-vous pu concevoir un doute si injurieux ? Comment votre cœur ne vous a-t-il pas dit que mes malheurs et l'implacable nécessité avaient seuls été capables de me faire consentir à souiller, par un autre engagement, notre amitié céleste ? Ah, regardez-la et regardez-vous !» Camilla, que les premiers mots avaient rendu presque immobile de surprise, revint de sa stupeur et gagna son appartement, où elle resta, quoiqu'elle eût entendu M. Bellamy sortir de la maison. Le désir d'avoir des nouvelles de sa sœur céda à son indignation. Mrs. Burlington venait de perdre son estime, mais elle ne crut pas moins devoir lui représenter l'irrégularité de sa conduite, et le lendemain matin, elle se présenta chez elle dès qu'elle fut visible. Mrs. Burlington paraissait triste et pensive, mais avec sa franchise ordinaire, elle lui parla de la visite de Bellamy et lui demanda pourquoi elle avait pris la fuite. Après avoir répété d'abord ce qu'elle avait entendu, « Comment, lui dit-elle, avez-vous pu souffrir qu'il vous parlât si injurieusement d'Eugénia, de la généreuse et respectable Eugénia que vous sembliez aimer si tendrement ?»« Mais, ma chère Camilla, lui répondit-elle, votre sœur n'a point reçu d'injure puisqu'elle n'a point entendu cet entretien. Peut-elle être affligée ou humiliée de ce qu'elle ignore ?» Bellamy soulage sa peine par une confidence qu'il regarde comme sacrée. C'est le type de notre amitié céleste qui lui est, dit-il, plus cher que jamais, depuis que notre sort a tant de ressemblance. Vous m'effrayez, Mrs. Burlington. Comment pouvez-vous être aveuglée au point de trouver de la conformité entre sa situation et la vôtre? Eugénia l'a-t-elle traînée à l'hôtel? L'a-t-on forcé ou pressé de faire cette alliance ? Oh, ma chère Mistress Burlington, réfléchissez un moment et vous sentirez la turpitude de sa conduite mille fois mieux que je ne pourrais vous la peindre. » « Vous avez raison, lui répondit-elle en rougissant. Je ne conçois pas comment il a pu m'abuser au point de me faire croire que nous avions la même destinée. » Camilla se félicita de sa victoire, mais dès le lendemain, à la même heure, on annonça Bellamy. Il fut reçu de même. Camilla disparut et Mistress Burlington l'assura qu'elle allait lui prouver sévèrement toute la fausseté de sa comparaison. Mais la sévérité était incompatible avec le caractère de Mistress Burlington. Camilla revint auprès d'elle, aussitôt qu'il fut sorti, et la trouva baignée de larmes que le regret d'avoir offensé Bellamy lui avait, disait-elle, fait répandre. « Car il m'a clairement démontré, ajouta-t-elle, qu'il est la victime de sa destinée. » Camilla était loin de s'en laisser imposer par de pareils sophismes. Mais elle était convaincue que ses remontrances seraient inutiles, que Bellamy serait toujours reçu et que chaque entrevue détruirait tous les faits de ses conseils. Dans cette triste circonstance, une lettre de Lionel, datée d'Ostende, lui apporta quelques satisfactions. Il lui faisait un tableau de sa situation et de la vie économe qu'il menait, dans la crainte de manquer du nécessaire dans un pays étranger où il n'avait point de ressources. Il ne pouvait pas, disait-il, lui donner une idée de ses regrets. Il était épouvanté lorsqu'il se rappelait sa conduite passée, où il commençait à croire qu'il y avait eu moins de méchanceté que de folie, car comment aurait-il pu commettre des actions si criminelles si sa raison n'avait pas été totalement aliénée? Camilla envoya promptement cette lettre à son père, qui fit passer à Lionel un secours suffisant pour le mettre à l'abri de la misère et quelques conseils qu'il jugeait propres à encourager sa conversion. Le jour définitivement fixé pour le retour à Clèves s'approchait, et Camilla n'avait rempli aucun des objets de son voyage. Elle voyait avec douleur que ces délais n'avaient servi qu'à prolonger ses souffrances. Cependant, comme Eugénia ne semblait pas désespérée encore, elle n'avait point écrit sa lettre, et Miss Margland et Indiana, ayant consenti à passer par Bellefonds, son entrevue future avec Eugénia lui laissait encore un rayon d'espoir.